gré des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
Bonjour, bonsoir. Impérieux, emporté extrêmement tout d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs, athée jusqu'au fanatisme, en deux mots, me voilà, tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. Ainsi parlait le marquis de Sade, qui investit le musée d'Orsay pour une exposition dont Annie Lebrun, auteur de plusieurs ouvrages sur Sade et spécialiste du surréalisme, en est la commissaire. On savait combien l'auteur sulfureux de Justine, La philosophie dans le boudoir ou Les 120 journées de Sodome avaient marqué les écrivains, qu'il s'agisse de Baudelaire, Flaubert, Barbey d'Orvilly ou bien sûr Apollinaire. 200 ans après sa mort, on découvre combien sa vision crue du sexe, de la violence et peut-être même de l'homme, tout simplement, a également influencé l'esthétique picturale et plastique des 19e et 20e siècles. L'exposition Sade, attaquer le soleil, c'est jusqu'au 25 janvier au musée d'Orsay et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Annie Lebrun.
Bonjour.
Sade au musée d'Orsay, est-ce que c'est une provocation?
Pas vraiment.
Pas vraiment, donc un petit peu quand même.
Bah, je pense que ça peut surprendre, ça peut même choquer certaines personnes. Mais justement, dans la mesure où on a déjà bien vu l'influence que Sade avait dans la littérature, comme vous l'avez rappelé, je pense qu'il était temps d'essayer de voir quelle a été, plus que son influence, la manière dont il a influé justement l'expression plastique au 19e siècle.
Alors le parcours du visiteur de cette exposition est rythmé par les citations de Sade. Est-ce qu'on peut dire que les œuvres que vous avez rassemblées dans le cadre de cette exposition ont été choisies en fonction de ces phrases? Comment est-ce que vous avez construit le parcours?
C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que oui, l'exposition, et ça j'y tenais beaucoup, est ponctuée et même structurée par des citations de Sade. Elle est aussi accompagnée de citations d'écrivains et même d'artistes du 19e siècle, parce qu'il s'agissait de montrer la rencontre qui se fait justement dans les profondeurs de la sensibilité.
Mais vous êtes parti de l'œuvre de Sade ou vous êtes parti des collections du musée d'Orsay?
Non, je ne suis pas parti des collections du musée d'Orsay. C'est qu'il m'a semblé que dans la mesure où Sade pose la question de l'irréprésentable violence du désir, comment rendre compte de cela? C'est quelque chose qui hante en quelque sorte toute sa démarche, hein. C'est comment donner forme à ce qui est censé n'en pas avoir. Il m'a semblé que justement là, Sade rencontrait des préoccupations qui deviennent des préoccupations majeures des peintres de cette époque, parce que au moment où justement les grandes structures éthiques, religieuses sont en train d'être bouleversées à la charnière du 18e et du 19e siècle, forcément, les questions de représentation se posent de façon très aiguë. Et on voit, parce que jusqu'à présent, et c'est aussi ce qui est montré dans l'exposition, c'est que, et bien sûr, ce dont parle Sade, cette violence du désir, elle existe, elle a été abordée tout au cours de, même ça hante l'histoire de la représentation, mais on avait des formes de représentation codées. On évoquait cette violence-là à travers la peinture mythologique. Quand on regarde attentivement ce qui se passe dans les évocations mythologiques.
Bien sûr, il y a beaucoup d'ailleurs de sujets mythologiques dans l'exposition.
Exactement, mais aussi à travers la peinture religieuse où c'était quand même le prétexte à mettre en scène un certain nombre d'horreurs, et puis aussi dans la peinture historique. Or, ces codes représentatifs sont en train de s'effondrer, et il y a une recherche, il y a une quête chez les peintres du début du 19e siècle d'essayer de rendre compte justement de cela différemment.
Mais l'influence de Sade, Annie Lebrun, est-ce qu'elle est consciente chez les peintres, ou est-ce que finalement elle est sous-jacente en quelque sorte? On va pas parler de psychanalyse avant l'heure, mais est-ce qu'elle est inconsciente?
Je ne sais pas si elle est consciente, et c'est aussi ce qui fait à la fois qui faisait la difficulté et l'intérêt de l'exposition, justement de rendre compte comment cette pensée-là clandestine, maudite, tout au long du 19e siècle.
Parce que personne ne pouvait officiellement se réclamer de ça.
Non.
Surtout pas.
Non, surtout
pas.
Il fallait pas le dire. Et même justement, il y a un exemple où, je crois, c'est dans la dans une recension de Salammbô, Sainte-Beuve fait allusion à Sade, et Flaubert, qui était pourtant un admirateur passionné de Sade, écrit à Sainte-Beuve que pratiquement il veut sa mort publique. Vous voyez,
oui.
Donc même les gens qui étaient très influencés par Sade faisaient attention à ne pas s'en réclamer publiquement. Donc ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir comment justement cette pensée clandestine a travaillé le 19e siècle.
Alors justement, du point de vue esthétique maintenant, en quoi est-ce que la pensée de Sade a été révolutionnaire ?
Je pense que par exemple un tableau de Lacroix comme La mort de Sardanapale, dont on a la chance d'avoir la grande étude qui vient du Louvre, constitue une sorte d'illustration, si on peut dire, du propos de Sade.
Alors en quoi ?
Et parce que vous connaissez l'histoire de...
Alors rappelez-la nous et décrivez-nous le tableau surtout.
Donc il s'agit d'un monarque absolu, Sardanapale, dont le royaume est assiégé, et qui sait qui va périr dans cette histoire-là, et lui donc décide en quelque sorte de mourir de la façon la plus voluptueuse possible et la plus grandiose, c'est-à-dire en faisant mourir avec lui ses courtisanes, ses chevaux et tout le luxe qui l'a entouré doit disparaître avec lui. Et c'est ce tableau, et qui a d'ailleurs influencé Byron aussi, ce tableau et ce qui est que de la croix peint alors qu'il est assez jeune, on voit comment c'est une sorte de brasier qui est lancé dans la sensibilité du 19e siècle.
Donc de par le sujet et puis de la façon aussi dont les corps sont représentés.
C'est
et là,
ça
va au-delà de la croix d'ailleurs.
Voilà. Et là, c'est ce qu'il y a justement de particulièrement intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où les artistes vont aborder ces forces-là en dehors des codes de représentation, eh bien, on ne peint plus de la même façon. Et en ce qui concerne de la croix, donc on voit comment ce tableau de jeunesse, qui est une sorte de brasier de couleurs, de tourbillon de couleurs, où tout est emporté dans cette sorte de naufrage où il y a la liaison de la volupté, de la souffrance, et donc aussi cet cheminement vers la mort, on voit comment, eh bien, 20 ans après, on va le retrouver dans sa peinture avec ce tableau incroyable qui est là aussi, qui est la chasse au lion, où ça n'est plus qu'un tourbillon de couleurs, une sorte de férocité de couleurs qui agresse le regard et qui remet en cause l'image des corps, et aussi qui interroge profondément notre sensibilité.
Il y a aussi des œuvres d'Ingres hein, dans l'exposition, de Courbet aussi,
oui.
qui
oui.
représentent des corps marqués par un désir beaucoup plus visible pour l'œil du visiteur qu'auparavant.
L'exemple de Ingres est extrêmement intéressant parce que chacun connaît le classicisme.
Oui, alors là on se dit mais alors
et on
ça
voit comment pendant je crois 40 ans Ingres va être obsédé par l'histoire de Roger et Angélique. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est captive du dragon et que un chevalier va délivrer. Et on voit comment ce tableau, dans lequel au départ Ingres obéit au code de représentation, donc tous les acteurs sont là, enfin dans une mise en scène splendide, mais comment peu à peu l'accent va être de plus en plus sur le corps nu de cette jeune captive et qui peu à peu le dragon va disparaître, ne va plus être qu'une sorte de bouche sombre, et puis l'éclair de Roger, on ne va plus retenir de son délivreur, on ne va plus retenir que l'éclair de son glaive, et tout d'un coup tout l'accent érotique, si je puis dire, passe sur le corps, dans le corps de cette jeune captive. Et là, c'est le début aussi de ce qui se passe au 19e siècle. C'est comment le corps des jeunes personnes innocentes devient cette page blanche sur laquelle le désir va s'inscrire. Ou alors, aussi, suivant les différentes versions de ce tableau chez Ingres, on voit comment peu à peu ce corps est agit de l'intérieur pour donner une image de l'éperdu.
L'impressionnisme également, influencé par ça, là, c'est quand même très très étonnant. Par exemple, même chez Cézanne, j'aurais jamais cru que Cézanne et Sade pourraient se retrouver esthétiquement parlant.
Alors là, c'est quelque chose, je pense, de très important. C'est le fait que toute la jeunesse de Cézanne est hantée par la question érotique. Et avec donc des tableaux d'une violence incroyable. Au musée d'Orsay, on a la chance d'avoir en particulier la femme étranglée, mais on a eu aussi
un tout petit format.
Mais on voit à quel point toute l'intensité de la vie passe dans cette femme qui le désir fait que elle va succomber. Aussi, c'est que on voit comment aussi avec un tableau qui s'appelle l'enlèvement, un tableau extraordinaire qu'on a pu avoir de Cambridge, comment Cézanne est complètement obsédée par cette question du désir, de la violence du désir, et en même temps comment justement cette violence du désir est pour lui profondément liée à l'expression même picturale.
Le groupe Eiffel sur RFI, une chanson, et ça ne nous a pas échappé, Annie Lebrun, inspirée, pas mal de clins d'œil dans le texte, par l'univers de Sade. Annie Lebrun est avec nous pour cette exposition Attaquer le soleil au musée d'Orsay. Annie Lebrun, on sait combien vous êtes une spécialiste des surréalistes. Alors en quoi précisément est-ce que les surréalistes se sont emparés, et là cette fois-ci de façon beaucoup plus revendiquée, hein, de l'héritage de Sade?
Alors, je ne suis pas plus spécialiste du surréalisme que de Sade, s'il se trouve que j'ai aimé ça, j'ai été passionnée par ces formes de pensée, c'est tout. Hein. Bon, ce qui a fait que
il y avait une logique, effectivement, dans cette recherche. Oui. Alors, en quoi les surréalistes se sont inscrits dans ce sillon-là?
Alors, ce que montre l'exposition, en quelque sorte, c'est comment juste en se débarrassant de ces représentations codées, le désir va peu à peu devenir le sujet de la peinture. Hein. Pour être reconnu par le surréalisme comme le grand inventeur des formes.
Et là, donc c'est le désir qui invente les formes.
Oui, je pense. Et ça, on le voit à l'œuvre, on voit ça à l'œuvre justement dans tout le monde qu'a créé Sade. Et c'est tout naturellement que les surréalistes ont été influencés là véritablement par la lecture de Sade.
Mais alors Desnos, par exemple, que l'on croise aussi dans l'exposition, il expliquait dans son livre de l'érotisme qu'il y avait un avant et un après Sade. Alors,
oui.
En quoi y avait-il un avant et un après?
Pour Desnos, c'est que pour lui, Sade se différencie complètement de tous les écrivains érotiques, si on peut dire, dans la mesure où il y a chez Sade une conscience très forte que la violence qui est à l'œuvre dans l'érotisme est une violence du même ordre que celle qui est à l'œuvre dans l'univers. Donc pour Desnos, il s'agit, depuis Sade, de considérer l'amour et les choses qui vont avec du point de vue de l'infini.
Alors on le sait pas toujours, Annie Lebrun, mais la fameuse toile de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, avait un autre nom au départ,
oui.
Un nom directement relié à l'univers de Sade, ça s'appelait Le Bordel Philosophique.
Oui, oui.
C'est une référence à la philosophie dans le boudoir,
sûrement,
évidemment.
Sûrement, parce que justement, 1907, c'est donc les Demoiselles d'Avignon. 1907, c'est les 11 000 verges d'Apollinaire. Et à ce moment-là, Apollinaire est très près de Picasso. Mmh. Et c'est vraisemblablement lui qui aurait donné le titre de bordel philosophique. Et il faut dire aussi que Apollinaire est celui qui va changer le regard de sur Sade en le présentant justement dans Les Maîtres de l'amour et en faisant un personnage non pas à considérer comme une curiosité érotique ou comme un cas clinique, puisque ça a été longtemps, le oui. 19e siècle se raccroche à cette interprétation-là, mais qu'il s'agit d'un univers poétique, d'une vision complète du monde à partir de la chose érotique, et c'est là le grand renversement. Parce que, bon, si Sade a écrit la philosophie dans le boudoir, on ne fait pas bien attention au fait que ça s'appelle la philosophie dans le boudoir, c'est-à-dire qu'il met la philosophie dans le boudoir, c'est qu'il commence à interroger la pensée à partir de la question érotique, alors que la plupart des gens qui pensent ces questions-là font toujours l'inverse, essayent d'intégrer le domaine érotique dans leur système de pensée. Et on peut dire aussi qu'il y a une sorte de cheminement qui passe dans l'exposition et qui va correspondre aussi au moment où, d'une certaine façon, Picasso, lui, va mettre la peinture dans le boudoir avec Les Demoiselles d'Avignon.
Oui, c'est-à-dire que pour Sade et pour les surréalistes qui s'inscrivent dans ce sillon-là, la pensée, elle doit être incarnée. Elle doit être incarnée par de la chair, hein, c'est évidemment un pléonasme que de le dire, mais je pense que c'est pas inintéressant d'y assister.
Oui, c'est vraiment que la pensée vient du corps. Enfin, c'est le Sade est le premier à l'affirmer en disant la fameuse chose dans Juliette. Enfin, on déclame contre les passions sans songer que c'est à leur flambeau que la philosophie allume le sien. Donc c'est clair. Tout ce que nous pensons vient de nos passions, de nos pulsions. Et a fortiori, après les surréalistes qui ont pris conscience de cela, après Freud bien sûr, mais avec aussi en reconnaissant l'intensité que ça donne au terme de passion, vont prendre le relais de cette pensée-là.
Est-ce qu'on peut dire justement, Annie Lebrun, que Sade annonce Freud ?
Oui, d'une certaine, oui, mais beaucoup plus que ça. Je pense beaucoup plus que ça parce que Freud est un rationaliste. Hein,
oui. Alors que Sade s'inscrit plutôt en opposition à Descartes.
C'est une complète opposition à Descartes. Il ne s'oppose pas à Freud, mais il essaye de trouver une autre façon de penser qui corresponde justement à la singularité de son rapport au monde.
Pourquoi ce titre, Attaquer le soleil, dit Lebrun ?
Ouais, parce que d'abord c'est une citation de Sade, hein, ça vient d'une réflexion d'un des libertins les plus déchaînés, d'un des quatre libertins des 120 journées, je ne sais plus en tête la citation ouais. exacte, mais qui déplore que justement son imagination a toujours été au-dessus de ce qu'il peut réaliser, et que le fait de s'attaquer aux astres, d'embraser le soleil, d'attaquer le soleil, d'embraser l'univers, ce serait des crimes cela et pas les petits écarts auxquels nous nous livrons. Donc c'est aussi, on en revient à ce que disait Desnos, qui est évoqué par Desnos, c'est toujours cette dimension infinie qui hante le propos de Sade, et puis aussi avec l'idée d'attaquer le soleil, c'est aussi la question de la représentation qui est là.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Toujours avec Annie Lebrun, écrivain, poète, critique, commissaire de cette exposition Sade, attaquer le soleil. Un programme de lecture, de table ronde, de projection de films a été imaginé dans le cadre de cette exposition au musée d'Orsay pour faire découvrir, redécouvrir Sade parallèlement à cette exposition. Et vous y participez, Benjamin Lazare, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, metteur en scène. Votre milieu de prédilection, c'est la scène baroque. Il y a quelque chose de baroque dans le personnage de Sade ?
Quelque chose. Ben, il est insaisissable. Donc, si en ça, il est baroque, mais enfin, il va au-delà. Il arrive et on peut déceler dans son écriture des choses qui viennent du baroque, qui viennent de Cyrano de Bergerac, qui viennent de Quevedo. Parfois, les sujets qu'il choisit. Ressemble à ce que pouvaient écrire ces gens-là.
Ouais, une influence du baroque sur les choix esthétiques de Sade, Annie Lebrun?
Je pense, oui, parce que dans le luxe des descriptions, des décors qu'il invente dans ce théâtre incroyable, ce théâtre mental qu'il va mettre en scène, on est dans la luxuriance, dans la dépense, en quelque sorte, qu'il y a dans le baroque, ça c'est sûr. Et puis aussi, je pense qu'il y a cet héritage chez Sade, des premiers libertins au sens philosophique du terme du début du 17e.
Alors Benjamin Lazare, vous participez à un programme qui s'appelle Les Voix de Sade, avec des lectures de textes. On va y revenir dans un instant. D'ailleurs, vous allez nous en faire profiter en direct dans un instant, puisque vous avez choisi une lettre de Sade que vous allez nous lire aujourd'hui dans VMDN. Avant de vous écouter, on va revenir sur le parcours de Sade avec vous, Maïsa Costache, un parcours qui le fit passer plusieurs fois par la case prison.
Je suis emprisonné pour des crimes que je n'ai pas commis. On égorge les prisonniers de la Bastille. Peuple de Paris, au secours! Viens jeter à bas ce monument d'horreur. Le gouverneur de cette forteresse est un bourreau.
De juillet 1789, la prison de la Bastille. Le marquis de Sade y est enfermé depuis 11 ans. 5 ans et demi à Vincennes et 5 ans et demi à la Bastille. Le lendemain, il est transféré à Charenton. Pendant sa vie mouvementée, il est resté enfermé pendant 27 ans, dont 13 ans de forteresse. Jean-Jacques Pauvert, éditeur et écrivain qui a passé sa vie à étudier Sade, auteur d'une biographie de Sade publiée chez Robert Laffont, document INA.
On présentait ces 13 ans de forteresse toujours comme une condamnation. Moi, je me suis aperçu, enfin, je pense que la vérité est là, c'est qu'en fait, Sade, bon, était sadique, a commis des délits. On l'enferme, il aurait certainement été libéré au bout de 18 mois à 2 ans. Mais il reste en prison parce qu'il ne veut pas renoncer à sa façon de penser. Parce qu'il veut continuer à écrire.
Mais qui est ce marquis de Sade? Il est né le 2 juin 1740 à Paris, à l'hôtel de Condé. Sa mère, c'était une dame de compagnie de la princesse de Condé qui finira sa vie dans un couvent et c'est la grande absente de sa vie. Gonzague Saint-Brie, auteur du livre « L'ange de l'ombre » aux éditions Télémaque.
C'était un aristocrate de Provence, d'une très grande famille française, qui a une éducation un peu particulière, parce qu'il a été élevé par un père qui était un séducteur, qui était un libertin, qui était l'amant des favorites royales, et qui était aussi bisexuel. Et puis, il a été élevé par le père qui, de temps en temps, le confiait à son frère, c'est-à-dire à l'oncle de Donatien de Sade, et cet oncle était un évêque, un cardinal totalement dévoyé.
Voilà, le décor est planté. Beaucoup diront que l'absence de la mère et surtout de sa tendresse ont eu une influence désastreuse sur l'évolution du jeune Donatien. L'adolescent entre en 1750 chez les jésuites du collège d'Harcourt. Il se découvre une passion pour le théâtre et la science et la scène qu'il conservera toute sa vie. Puis, on retrouve le jeune marquis dans l'armée et il participe à la guerre de 7 ans opposant l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. Après la guerre, il épouse mademoiselle Renée Pélargy de Montreuil, forcée par sa famille. 4 mois après, nous sommes en 1763, il est arrêté pour la première fois de sa vie par ordre du roi et incarcéré au donjon de Vincennes. Motif, débauches outrées, blasphèmes et outrages à l'image du Christ. c'est le premier contact avec la prison. Vont suivre des emprisonnements successifs jusqu'en 1789, quand il écrit ses premiers ouvrages, dont Les Infortunés de la Vertu. Libéré en 1790, divorcé, il s'installe avec Marie-Constance Quesnay, une comédienne qui restera à ses côtés jusqu'à sa mort. De cette époque date Justine, ou Les Malheurs de la Vertu, qu'il reprendra plus tard dans La Nouvelle Justine en 1797. Le scandale déclenché par ce dernier roman lui vaudra une nouvelle arrestation en 1801. Incarcéré à Charenton en 1803, il organise des représentations théâtrales avec des personnages de ses derniers romans, Les Journées de Fleur Belle ou La Marquise de Ganges en 1813. Le 2 décembre 1814, le marquis de Sade tire sa révérence après avoir rêvé ses fantasmes sexuels qu'il avait écrits, à défaut de n'avoir pas pu les vivre.
Est-ce que c'est si sûr que ça, Annie Lebrun? Est-ce que ça n'était un homme de fantasme avant tout?
Il a dit que tout le bonheur de l'homme est dans son imagination. Mais son rapport au théâtre est extrêmement intéressant parce que justement, il a été toute sa vie, depuis qu'il est petit, fasciné par le théâtre, mais avec toujours comme le lieu où peut s'incarner justement l'irréalité des désirs, mais avec toujours à la fois une tentation continue et une infortune continue, parce que son rapport au théâtre montre que la scène sur laquelle il peut intervenir est toujours en deçà de ce dont il a rêvé, et c'est pour ça qu'il va ouvrir cet autre théâtre mental qui est complètement fou.
Il y a beaucoup de débats autour de la personnalité de Sade, j'ai l'impression, puisque vous avez un petit peu réagi pendant que Maïsa parlait, en particulier quand on écoutait Gonzague Saint-Brice, visiblement, vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses que lui.
J'ai vu que vous avez réagi, j'ai pas osé.
Oui, bon, parce qu'on est dans une sorte de psychologisation complètement ridicule, on essaye d'interpréter, alors que en même temps aussi, s'il s'agit d'une pensée qui dépasse complètement les déterminations familiales, etc.
C'était quand même ce que dit Gonzague Saint-Brice, c'était quand même la vérité historique. Il n'a pas dit autre chose.
Quoi?
Sur son enfant, sur son père, sur
Oui, enfin, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été dites dans ce que vous avez dit.
Oui, bah alors justement, je voudrais que vous les mettez. C'est pas moi qui suis en cause là directement. C'est
non, mais on va pas perdre du temps à pinailler sur des détails. Mais bon, tout ça, ça donne une image qui n'est pas du tout, qui ne rend pas compte du tout du propos et de l'envergure de Sade.
Monsieur, je sais fort bien, on m'a prévenu que je ne devais omettre aucune précision, mais au contraire, fournir les moindres détails. Chaque fois qu'il pourrait contribuer à faire mieux comprendre les aspects particuliers de la personnalité même dont je parle, ainsi que le genre de passion qui est sienne, je ne crois pas n'avoir rien négligé qui...
Pourtant, je vais vous donner un exemple. J'ignore totalement quelle était la dimension du pénis de ce professeur. J'ignore totalement quel était son type d'éjaculation. Et je ne sais pas non plus si vous avez touché ses organes génitaux ou s'il vous a forcé à les prendre dans votre main. Je vous en prie, chère Madame Vaccari, un peu plus de clarté.
Je vous demande pardon et je vous promets que désormais je vais être prodigue de détails. Puis-je continuer?
Un instant. Un instant, messieurs. Juste le temps de lui faire goûter le bâton de ma vieillesse.
Un extrait de Salo ou les 120 journées de Sodome, un extrait du film de Pier Paolo Pasolini, film de 75. Annie Lebrun, un film qui sera projeté le 22 novembre prochain à 19h au musée d'Orsay, parce qu'en marge de l'exposition, il y a toute une série de manifestations, notamment un cycle de cinéma, avec des œuvres directement inspirées de Sade, et puis des œuvres de cinéastes qui ont été influencées aussi. C'est le même genre d'influence que pour les peintres, ou bien c'est au contraire beaucoup plus franc du collier, si j'ose dire?
Non, je pense que c'est le même genre d'influence, c'est-à-dire c'est la façon dont Sade a travaillé en profondeur la sensibilité. Alors effectivement, il y a des illustrations littérales, enfin un désir d'illustration littérale, et en particulier c'était important de montrer le salaud de Pasolini, bien que à mon sens ce soit un contresens profond. parce que dans la mesure où justement Pasolini raccroche le propos sadien à une réalité historique qui est ce qui est impossible, et là en l'occurrence cette réalité historique là, alors que Sade met en cause justement tous les ordres sociaux.
Cette aspiration cinématographique, elle va aussi au-delà de l'Occident. Par exemple, vous projetez le film d'Oshima, hein, L'Empire des Sens,
oui,
qui avait fait
oui.
évidemment scandale aussi à l'époque. Il y a une vraie filiation là aussi. Donc
je
ça jusqu'à l'Extrême-Orient.
Oui, et là, ça a eu une grande influence. Et on pense aussi, on sait l'influence que Sade a eue sur Mishima, sur ce qu'il a, sur son œuvre même. Et puis aussi, il faut signaler l'extraordinaire pièce parmi les évocations réussies de Sade. Il me semble que la pièce de Mishima, Madame de Sade, est extraordinaire, justement qui tourne autour du personnage.
Benjamin Lazare, on parlait tout à l'heure de la question de la représentation, hein, des œuvres de Sade. Vous qui êtes précisément dans le spectacle vivant, alors dans le théâtre plus que dans le cinéma, mais dans le spectacle visuel également, est-ce que représenter Sade, c'est un défi qui vous semble difficile?
Oui, c'est un défi incontestablement. Sade, en général, donne lieu à des lectures solitaires. Je pense que tous ceux qui ont lu Sade se souviennent de la première fois qu'ils ont eu un ouvrage de Sade entre les mains. Selon l'âge, c'était plus ou moins permis, c'était un accès plus ou moins caché. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans une bibliothèque? Est-ce qu'ils l'ont trouvé en librairie? En tout cas, on s'en souvient.
Oui.
Et en général, cette lecture se fait silencieusement, parce que c'est dans cette intimité-là que se déploie, comme l'a dit Annie tout à l'heure, ce théâtre. Ce théâtre plus qui va plus loin que le théâtre qu'il pratiquait par ailleurs, étant lui-même comédien, chanteur, et ayant employé des comédiens ou mis en scène des spectacles, comme ça a été rappelé.
Alors vous allez participer, vous avez déjà commencé, hein, puisque le cycle est en cours, un cycle de lecture au Musée d'Orsay. Là, on n'est pas du tout dans la lecture intime, hein, puisque c'est au contraire une lecture publique. On va y venir dans un instant. Vous allez nous raconter comment le public précisément réagit à vos textes, et vous avez accepté d'en faire profiter nos auditeurs, Benjamin Lazare. Vous avez choisi le passage d'une lettre de Sade, une lettre à sa femme, de novembre 1783, où il écrit sur sa façon de penser. On vous écoute.
Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Et que m'importe? Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde, et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. L'homme raisonnable qui méprise les préjugés des sots devient nécessairement l'ennemi des sots. Il doit s'y attendre et s'en moquer. Un voyageur suit une belle route, on la semait de pièges. Il y tombe. Dites-vous que c'est la faute du voyageur ou du scélérat qui a tendu les pièges? Si donc, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons donc nous dire un éternel adieu. Car je sacrifierais plutôt qu'eux 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. Ces principes et ces goûts sont portés par moi jusqu'au fanatisme. Et le fanatisme est l'ouvrage des persécutions de mes tyrans. Plus ils continuent leur vexation, plus ils enracinent mes principes dans mon cœur, et je déclare ouvertement qu'on n'a pas besoin de me jamais parler de liberté si elle ne m'est offerte qu'au prix de leur destruction. Je le dis à vous, je le dirai à Monsieur Lenoir, je le dirai à toute la terre, l'échafaud serait là que je ne varierai pas.
On voit effectivement la personnalité très très forte du Marquis de Sade, Annie Lebrun, mise en onde, mise en mots, mise en voix par Benjamin Lazare, et merci beaucoup de l'avoir fait évidemment en direct dans VMDN. Sade, malgré les attaques, n'a jamais tressailli. Il est toujours resté sûr de lui, sûr de soi, sûr d'avoir raison aussi, Annie Lebrun.
Je ne sais pas, mais sûr que c'est lui-même, que c'est sa façon de penser. Et ça, c'est un des apports essentiels de Sade. Justement, cette affirmation d'une singularité irréductible qu'il y a en chaque homme. Et avec le courage qui a été le sien, de commencer à penser le monde à partir de ce qui les différencie des autres hommes. Et au moment où toutes les autres personnes qui pensent, les philosophes, eux, au contraire, s'appliquent à penser à partir de ce qui se relie les autres hommes. Toute la fin du XVIIIe siècle, c'est la question du lien social. Or, Sade, à ce moment-là où le lien social devient quelque chose de tout à, comme une sorte d'impératif catégorique, si je puis dire, lui va affirmer envers et contre tout l'irréductible singularité de chacun et en affirmant qu'elle est liée à la singularité sexuelle.
Alors, pourquoi vous choisissez ce texte-là, Benjamin Lazare? Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez un texte plus sulfureux.
Disons que il contient toutes les possibilités de Sade, puisqu'il affirme sa singularité, mais je pense que il n'est pas possible de dire un extrait de Sade sans contexte. En une minute et demie, on peut pas juste...
Oui, parce que l'exercice était contraint.
On pourrait dire, effectivement, on pourrait trouver un passage absolument terrifiant, très choquant, mais je pense que ça ne reflèterait pas ce qu'il se passe quand on lit Sade dans la continuité et quand on suit son chemin de pensée. Donc ça serait le trahir que d'en lire un extrait d'une minute et demie comme ça.
Alors au musée d'Orsay, ces lectures sont évidemment beaucoup plus longues. Il y a des extraits de sa philosophie dans le boudoir, de Justine, vous évoquez aussi sûrement Juliette, hein, qui est vraiment une femme très très libre sexuellement. Comment est-ce que ces textes-là, autant que vous le sachiez, sont perçus aujourd'hui par ceux qui viennent vous écouter?
D'abord, c'est une expérience peut-être à risque de lire Sade, de le lire à voix haute, mais en même temps, l'expérience s'imposait parce que Sade est un écrivain extrêmement théâtral, c'est-à-dire extrêmement précis dans ses images. Et si on regarde les 120 journées de Sodome, la façon dont il dresse le décor pour ce qu'il appelle les historiennes qui vont raconter toutes les perversions sexuelles auxquelles elles ont été confrontées dans leur vie, le décor qu'il dresse est un théâtre absolument fabuleux, où les fêtes qu'organise Juliette pour les libertins et dans lesquelles se passent des horreurs absolues, des meurtres, des tortures, etc. Ces descriptions valent les plus belles descriptions des opéras du grand siècle. Donc voilà, c'est d'abord cette dimension-là qui éclate.
Sadness Enigma sur RFI, un morceau qui était resté dans les toutes premières places du top 50. C'était en 1990, un énorme succès en France. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Annie Lebrun. Alors, en tout cas, bon, on est frappé, évidemment, c'est un mélange de sexe et de chant grégorien. Le clip était quand même assez chaud hein, pour l'époque. Et c'est un choix assez curieux quand même, parce qu'il n'y avait pas plus athée que le Marquis de Sade.
Oui.
Alors pourquoi est-ce que quel était le rapport de Dieu avec Sade et quel était le rapport, c'est intéressant d'ailleurs que la façon dont je pose la question, le rapport de Dieu avec Sade, j'aurais dû vous demander quel est le rapport de Sade avec Dieu, mais c'est intéressant.
En l'occurrence, c'est Dieu qui est mis à mal. C'est Dieu qui est mis à mal parce que vous avez vu que dans le fond, je pense qu'il n'y a pas d'athée plus radical que Sade. Et c'est aussi ce qui fait sa singularité parce que chez lui, il n'y a aucune transcendance, il n'y a la place pour aucune transcendance. Et ça, je pense, ça c'est aussi une des raisons qui a fait que le rapport du 19e siècle avec Sade est un rapport tourmenté.
Oui.
Et qu'il va y avoir justement, on voit dans la peinture comment à la fois l'influence de ce que déclenche Sade, parce que comme l'a dit Benjamin, c'est une pensée qui provoque toujours le lecteur. On ne pense jamais à froid chez Sade. Donc il y a toujours une incitation, mais cette incitation-là chez les lecteurs de Sade vont amener à ce qu'on mette en place des dispositifs qui à la fois permettent d'aborder cette radicalité, mais aussi de contenir ça. Je pense en particulier à la façon dont on revisite tous les grands mythes comme Salomé, comme les Judith et la tentation de Saint-Antoine. Parce que à nouveau, et on va arriver aussi au satanisme, qui est une façon de se préserver de Sade, et comme le dit d'ailleurs très bien Huysmans, en définissant le satanisme comme le spiritualisme de la luxure. C'est à nouveau, on réintroduit quelque chose, une transcendance, qui va permettre de contenir le propos.
C'est vrai qu'il y a un côté ange déchu chez Sade, Benjamin Lazare, non ?
Moi, je sais même pas s'il accepterait ce terme.
Non, probablement.
C'est un humain bien là, qui était bien là, oui. Ouais.
Est-ce que pour vous, c'est un auteur politique également ?
Profondément, oui. Ouais.
Annie Lebrun ?
Ah, oui, parce que justement, aussi, c'est
bon,
la conséquence.
Maïsa nous disait tout à l'heure combien de temps il avait passé en prison. Oui. Effectivement, il y avait une dimension extrêmement révoltée chez lui. Oui. Et son intransigeance était aussi, finalement, à pied de nez, pour ne pas dire plus, au pouvoir en place.
Oui, parce que l'affirmation de son athéisme, il ne s'attaque pas seulement aux représentations des différentes religions, et de toutes les religions, d'ailleurs, j'y insiste. Il s'attaque aussi, son désir, c'est de déraciner en l'homme ce qui permet cette sorte de servitude volontaire qui fait que on va accepter non seulement les religions mais les lois au détriment des passions. Et si il faut aussi rappeler que Sade est un des premiers adversaires de la peine de mort, ce qui n'est pas rien.
Et
non
ça
plus.
C'est rappelé effectivement dans l'exposition.
Oui. Oui.
Donc
oui.
Vraiment c'était un précurseur. Hein. C'est un peu moi ce que je retiens de cette émission. C'est-à-dire il était totalement en avance sur son temps, Benjamin Lazare.
Mmh. Ah oui. Et dans son expression, dans ses dans son style aussi, qu'on lit dans ses œuvres, mais aussi dans ses lettres. Et c'est pour ça que on a déjà eu l'occasion de lire Justine, Juliette, les 120 journées, mais on va consacrer une soirée le 14 décembre prochain au style très particulier et extrêmement vivant de Sade dans ses lettres adressées notamment à sa femme que je vais avoir le plaisir de lire entouré de Pierre Vial et Michel Faux.
Voilà, donc il y a effectivement du beau monde dans ce programme de lecture au Musée d'Orsay. Est-ce que finalement Annie Lebrun, c'est pas la vision de la femme de Sade qui est le plus datée aujourd'hui, qui est peut-être la moins contemporaine possible, ou est-ce que c'est un cliché que de dire ça?
La vision de la femme
oui,
de Sade.
Il n'était pas féministe, Sade. On est d'accord.
Je ne dirais pas ça.
Ah, alors expliquez-nous, parce que là, je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Alors expliquez-nous.
Parce que s'il est farouchement s'il est même déchaîné contre les rôles traditionnels qui ont été accordés aux femmes, il n'empêche que le personnage le plus libre qu'il invente, c'est quand même un personnage de femme, c'est Juliette. Et Juliette est un roman...
Qui s'oppose à Justine, hein, c'est un petit peu...
Qui s'oppose complètement à Justine. Et Juliette, c'est un roman de formation au cours duquel... Ce personnage féminin, il choisit un personnage féminin justement parce que à l'époque, par la nature, il y a une détermination et des invariants qui pèsent sur la condition des femmes, aussi de façon sociale. Or, tout le travail de Juliette, ça va être de se débarrasser de différents rôles sociaux qui ont été attribués aux femmes. Et là va commencer l'invention d'un nouveau personnage. Et c'est aussi une histoire emblématique de ce qui fait encore l'actualité de Sade et cette sorte de fascination qu'il peut exercer, dans la mesure où c'est quelqu'un qui se débarrasse de toutes les idées, de tous les présupposés sociaux, religieux, éthiques, et qui, dans sa façon de penser qui a été évoquée par Benjamin, arrive à nous aider à se débarrasser de toutes les formes d'idéologie qui sont autant de béquilles qui, pour nous essayer de ne pas voir ce à quoi nous sommes affrontés et de ne pas voir le néant sur lequel nous avançons.
Merci beaucoup à tous les deux, Annie Lebrun et Benjamin Lazare. L'exposition Sade, attaquer le soleil, c'est jusqu'au 25 janvier 2015 au musée d'Orsay. Prochain rendez-vous lecture, Benjamin Lazare.
Le 14 décembre à 16h avec Michel Faux, Pierre Vial.
Et puis aussi, je veux dire qu'il y a aussi, je crois, le 11 décembre, il y a une table ronde, c'est comment éditer Sade.
Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous est pris. Demain, c'est l'écrivain Frédéric Becbédé qui sera avec nous pour son roman Una et Salinger, paru chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.